voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Élé Béji. Ce soir, une enfance baignée par la politique.
Bonsoir Élé Béji.
Bonsoir.
Hier soir, vous nous avez raconté votre enfance, que vous avez passée, bien que vous soyez née en Tunisie, un petit peu en Europe, en Italie et en Allemagne, parce que votre père était ambassadeur. Et de retour à Tunis, votre père était ministre de Bourguiba. Et vous avez une tante qui a été la femme de Bourguiba. Donc votre famille avait une proximité avec, avec ce président de la République que vous avez donc côtoyé. Devenant jeune adulte, vous êtes parti à Paris faire vos études, préparer l'agrégation de lettres que vous avez réussi. Pourquoi, Élé Béji, faire vos études dans le pays colonisateur ?
Bien, alors, je voudrais peut-être revenir en arrière pour expliquer tout ça. Quand on était en Allemagne, c'est important parce que Rome, j'étais encore trop petite, mais en Allemagne, j'avais 9 ans, je suis devenue allemande.
Vous y étiez en quelle année ?
En 57, 58, 59, ou ça, les trois...
Avant la construction du mur.
Oui, mais c'était déjà une Allemagne. J'étais fascinée, comme je venais de Tunisie, j'étais fascinée par la beauté des routes, la perfection, la propreté, la discipline, l'organisation de l'existence. Il y avait déjà à l'époque des routes pour bicyclette. On les fait aujourd'hui à Paris. Mais moi, j'avais ma bicyclette, j'avais une liberté totale et je partais en bicyclette parce que sur toutes les routes de Bad Godesberg, c'était sur le Rhin, il y avait des petites routes à bicyclette. Donc mes parents, je passais mes journées dehors en bicyclette. Et j'ai appris tous les arts et les lettres, en quelque sorte, là-bas. C'est-à-dire que j'ai fait de la peinture, j'allais à des cours de dessin, je faisais de la musique. Il y avait Fraulein Kreutzer, je me souviens, je me rappellerai tout son nom, qui venait avec son petit caniche nous donner des cours de piano. C'est comme ça que j'étais en contact avec la grande musique allemande. Et ma mère, comme elle était ambassadrice, elle invitait des gens. Et elle avait invité une fois le pianiste Caroli. Je ne sais pas si vous avez entendu, un très grand pianiste de l'époque que j'ai connu. Et on allait à ses concerts. Donc j'étais en contact avec tout ça. En France, à Tunisie, il n'y avait que la culture française. Là, il y avait quelque chose d'encore beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que la culture française. Je faisais du cheval, de l'équitation. Je faisais de la natation. Et donc, je faisais du patin à roulettes, je faisais de la bicyclette. Donc, j'avais cette espèce d'accomplissement dont parle Rabelais du corps et de l'esprit. Vous voyez ? Je pratiquais tout.
Une éducation aristocratique aussi. Enfin,
peut-être, oui, mais ma petite fille, elle va à son cours de piano, que tous les enfants aujourd'hui ont. Mais peut-être à l'époque, en Tunisie, non. Donc ça, j'ai eu ça par l'Allemagne. Et ça a été tellement fort, mon identité allemande, parce que j'étais à l'école allemande. J'étais à l'école française, et puis ensuite, j'ai fait par correspondance, vous savez, l'école par correspondance en France, pour faire les devoirs. Mais on me mettait à l'école allemande, pour ne pas que je m'ennuie. Donc j'ai appris l'allemand. Maintenant, j'ai oublié. Mais ce qui était incroyable, c'est que quand je suis rentrée en Tunisie, j'étais extrêmement affectée. C'est-à-dire, c'était ma première petite dépression d'enfant. À 12 ans, je pleurais dans mon lit. Parce qu'on m'avait arraché à, en fait, ça devenait mon pays, quoi. Ma patrie, c'était l'Allemagne. Et j'ai eu beaucoup de mal à me réadapter. Ensuite, il y a des tas de choses qui après, m'ont nourri en Tunisie, qui ont permis, et en particulier la maison, justement, la vie, la demeure, ce que j'appelle l'existence, la demeure de ma grand-mère, m'a beaucoup aidée. Mais, donc, cette culture occidentale, je l'ai eu sous tous les rapports, pas par la langue française uniquement, même si la langue française, elle a été le vecteur premier, puisque c'était ma langue. En fait, c'était ma langue natale aussi. Donc j'avais deux langues natales, en fait. Et je n'ai pas eu à choisir entre les deux. Et c'est pour ça que je n'ai aucun problème pour passer. Maintenant, il y a des gens, ils ont des crises d'identité, des problèmes d'angoisse, des déchirements. Qui suis-je ? Non. Français, arabe, allemand, italien. Jusqu'à maintenant, je parle couramment italien parce que j'étais en Italie un an, mais l'avantage de la télévision, c'est là où on voit combien les techniques, c'est qu'on avait l'émission Rai Uno en Tunisie quand on est rentré, et j'ai continué donc à pouvoir parler l'italien grâce à la télévision. L'Allemagne, non. Je n'avais pas de télévision en allemand. Donc, j'ai oublié l'allemand. J'ai perdu mon allemand. Mmh. Mais maintenant, c'est comme une langue un peu mystérieuse et pour moi, merveilleuse aussi. Donc, vous voyez, mon merveilleux, en fait, mon merveilleux n'est pas enfermé dans une secte ou une lignée rigide. Non, mon merveilleux, il est composé de tout. Et alors, évidemment, le fait de faire mes études au lycée Carnot, c'est-à-dire dans un lycée de la République française où j'avais que des professeurs agrégés, m'a marqué. Et tout ce que je suis, vraiment, je le dois bien à mes parents, qui ont été exemplaires avec moi, qui ne m'ont jamais... Vous savez que je n'ai jamais été punie de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne punis pas mes enfants. Je n'ai jamais été punie. C'était pas une éducation de brimade. Je trouve qu'ici, les parents usent un peu de brimade. Je suis un peu toujours traumatisée par l'éducation française. Je trouve que c'est une éducation qui me traumatise un peu.
Alors que l'éducation que vous receviez n'était pas exceptionnelle en Tunisie.
Non.
Elle était plus permissive que l'équivalent en France.
Beaucoup plus. Je dis toujours que j'ai reçu une éducation beaucoup plus libre que Simone de Beauvoir, par exemple. Je lisais Le Deuxième Sexe et Mémoire d'une jeune fille rangée, et je me dis, mais la pauvre, elle était dans une école religieuse ou je ne sais pas quoi. Et je me souviens, ça me faisait de la peine pour elle, parce qu'il y avait le lycée Carnot, et on avait une école religieuse pas loin de chez nous, où les filles allaient. Elle me faisait de la peine, ces filles.
Ouais.
Mmh. De la peine, je dis, mon Dieu, j'avais conscience d'être dans une éducation, dans une école républicaine. Vous voyez, j'étais consciente à l'adolescence, forcément. Et je suis tombée, bien sûr, dans la langue française. Parce qu'à un moment donné, j'ai hésité. Comme j'étais très bonne en dessin, j'étais vraiment douée. Bon, et la professeure de dessin, même elle, chaque fois, elle me disait « Mais c'est toi qui as fait ça toute seule ?» Je disais « Oui. » Elle était étonnée. Et puis, j'aurais pu choisir une carrière artistique ou dans le dessin. Jusqu'à maintenant, je suis très sensible. Et je suis tombée dans la littérature. Je suis tombée à l'adolescence dans la littérature française. Et c'est là, les maîtres ont pris la relève de mes parents. Donc j'avais reçu toute cette espèce de liberté du corps. Je le dis, mais ça va peut-être vous faire rire, mais je le dis quand même. Mes parents n'avaient aucun problème avec la nudité, par exemple. Mes parents se baladaient nus à la maison. Ils ne faisaient pas partie d'un camp de nudistes. Mais il n'y avait aucune barrière. Donc, voilà, le péché du sexe n'existait pas. La honte. Voilà. Mon père ou ma mère se baladaient devant nous nus. Bon, donc pour nous, même moi, je ne l'ai pas fait avec mes enfants, vous voyez, parce que j'ai une espèce de pudeur comme ça. Ma mère était une femme d'une liberté extraordinaire. Et puis, lui, il était arabe, elle était française, mais jamais il y a eu de divergence. Je n'ai pas senti. Ils étaient forgés dans le même moule, c'est-à-dire complètement. Religieux ou prenant ses distances, voilà. Ils avaient un moule extrêmement libéral sur le plan psychologique, moral. Mais c'était des gens très moraux. Ils étaient exemplaires même par leur honnêteté. Donc c'est cette exemplarité, vous savez, je dis toujours pour éduquer les enfants, faut pas donner. J'ai reçu aucune règle. Hein. Je n'ai jamais, on m'a jamais imposé de règle. Je ne sais pas ce que c'est que la règle quand j'étais enfant. On m'a jamais imposé de règle. Parce que vous savez, c'était des grandes maisons, donc on avait une liberté. On était loin des parents, en fait. On faisait ce qu'on voulait. On n'avait pas toujours la mère sur le dos, le père sur le dos. Et c'est magnifique. Mais ils étaient exemplaires. Donc, en fait, c'est le comportement qui compte. C'est pas ce que tu dis, ne fais pas ça, ça, c'est pas bien, il ne faut pas frapper, il ne faut pas... Non.
On a naturellement envie que ça se passe bien.
Voilà. En fait, oui. C'est pour ça que je parle de l'Allemagne, parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, une scène que je raconte dans une de mes nouvelles, d'ailleurs. Je crois qu'il s'appelle « Longtemps, jamais je ne me suis couchée de bonheur ». Une scène extraordinaire qui devrait servir d'exemple à l'éducation civique qu'on donne aux enfants, qui est, à mon avis, beaucoup trop pesante. Donc, on était dans une petite école française d'Allemagne. J'étais en cinquième. Et on était tous des copains. C'était tous des petits Français, hein. Il y avait peut-être une ou deux années. Et moi, j'étais la fille de l'ambassadeur. Bon. Mais j'étais comme tout le monde. On était très égalitaristes dans la famille. Et un jour, je ne sais pas, quand Calmouche a piqué ses gamins, l'école était près d'un quartier militaire. Donc, c'était tous des enfants de militaires français. On était en pleine guerre d'Algérie. Et mon père, à ce moment-là, cachait des armes du FLN dans l'ambassade. On dirait aujourd'hui un ambassadeur terroriste, mais à l'époque, ça ne se passait pas. Et donc, j'entendais parler de tout ça. Et on était très, comme ça, pro-Algérie, etc. Et tu ne vois pas que ces gosses, un jour, m'attrapent et se mettent à m'agresser, à me dire retourne, espèce de sale, je sais plus quoi, comment ils m'ont dit. Bref, je retiens comme truc, retourne dans les écoles de ton Bourguiba, on ne sait même pas s'il en a. Et je me rappelle, c'était mes amis, c'était mes meilleurs amis. Comme quoi, c'est extraordinaire. Comme ça, ça, c'est un truc qui m'a sauvée, en fait. Et ils se sont mis à me frapper. C'est-à-dire que quelqu'un est venu par derrière, me donner des coups, puis quelqu'un par devant, et de tous les côtés. Et j'étais dans une meute, comme ça, de gosses. On est méchants, en 10 ans. Bon. Et évidemment, je me suis extrêmement défendue. Je me rappellerai toujours que j'ai sauté. Je me rappelle Claude, elle s'appelait Claude Konkowski. C'était une de mes meilleures amies. Elle était plus grande que moi, et moi, j'étais toute menue, toute petite, et elle, elle avait déjà les seins qui pointaient. Et j'ai encore la sensation, j'ai attrapé ses seins comme ça, j'ai poussé toutes mes forces, et je donnais des coups de poing, des coups de pied. Je me suis drôlement bien bagarrée. J'ai rien dit, j'ai pas pleuré, j'ai rien dit. Et je suis rentrée à la maison. À la maison, évidemment, je me suis mise à pleurer. Et je raconte à mes parents. Et mes parents, heureusement qu'ils ne sont pas intervenus. Ils se sont mis à rire. Ils m'ont dit, bah, c'est très bien, tu t'es bien défendue. C'était ça. Il n'y a pas eu de comité de parents d'élèves, de victimisation. La pauvre, elle est victime du racisme. Pauvre gosse, ah, c'est ça, d'enfant, la violence à l'école. Il faut punir les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, il faut laisser. Il faut laisser les enfants découvrir l'injustice et l'injustice. Et je dis que depuis ce jour-là, j'ai su ce que c'était que l'injustice, mais je l'ai vaincue, cette injustice. Parce que je suis devenue une image de la justice. Je savais que j'avais raison. Je savais que c'était du racisme. Je savais même, je me suis dit, ils répètent ce que disent leurs parents. Mais mes parents ont trouvé ça tellement normal, tellement insignifiant. Eux qui étaient dans un combat, bon, c'était... Ça faisait partie des... Jamais ils sont allés, j'allais pleurnicher, ma pauvre fille, la victime, elle était victime d'une bande de salauds. Jamais on a eu ça.
Et vous connaissiez les tenants, enfin, vous saviez tout sur la guerre qui se passait en Algérie?
Bien sûr, oui. Puisqu'on avait des armes dans l'ambassade. Et qu'un jour, on a appelé mon père au milieu de la nuit, enfin le gardien a dit, monsieur l'ambassadeur, on est attaqué. Et c'est vrai, il y avait eu des gens de l'OAS à l'époque, de la Main Rouge, qui se sont mis à entrer ou à essayer d'entrer l'ambassade, puisqu'il y avait des armes. Et le pauvre gardien, qui est pacifique, qui était totalement paniqué, je me rappelle le fou rire de mon père au téléphone. C'était la nuit, j'étais à côté de mon père, je devais dormir dans leur chambre, je ne sais pas. Et j'ai ce souvenir que mon père lui disait, n'aie pas peur, prends un balai. Et j'oublierai jamais... Prends un balai, surtout en arabe, c'est très drôle. Et il riait, mon père, il avait un fou rire. Donc, dans toutes les situations, il y avait toujours ce tragicomique chez nous, quoi. Et bon, ils sont partis, il n'y avait rien eu de dramatique. Mais on était dans cette guerre. Et donc, j'étais attaquée. C'était la guerre d'Algérie, en fait, qui me revenait dessus. Et bien, je me suis défendue, il n'y a pas eu de drame. Je suis pas blessée à mort jusqu'à la fin de mes jours par le racisme.
Ouais. Et ça ne vous a pas prévenu et les BJ contre la France?
Pas du tout. Pourquoi? Quel rapport? Ça n'avait aucun rapport. Et d'ailleurs, quelques jours après, avec mes amis, on est redevenus les meilleurs amis du monde. Et jusqu'à présent, j'ai un souvenir. Et j'ai un souvenir merveilleux de cet instant, pas d'un souvenir traumatique. J'ai fait une résilience totale parce que je me suis défendue. Je ne suis pas allée pleurer chez mes parents pour qu'ils me défendent. Vous voyez? Je me suis révendue tout de suite. J'ai frappé très fort. D'ailleurs, ils m'ont lâchée. Hein, parce que j'ai eu une capacité de nerveuse très, très violente. J'ai été très violente. Donc la violence, cette espèce d'esprit de non-violence qui consiste à dire « Attention, il faut préserver les enfants, mais jamais de la vie. Il faut les laisser se bagarrer dans la cour. Il ne faut pas intervenir. »
Le point de départ de l'anecdote très intéressante que vous venez de raconter, c'était la question de savoir pourquoi... Vous êtes partie faire vos études dans le pays colonisateur, qui était la France.
Mais ce n'était plus le pays colonisateur. Oui, c'était... Au contraire, c'était le pays coopérateur.
Il était inenvisageable de faire vos études en Tunisie.
Oui. Mais j'avais envie j'avais envie de faire des classes prépa. Et puis, je savais que les meilleurs... Il y avait une bonne fac, mais je n'aurais pas fait les mêmes études en Tunisie. Je n'aurais pas eu les mêmes maîtres. Donc, j'ai bien fait de partir. Et d'ailleurs, tout le monde part, mais même maintenant, beaucoup de ceux qui ont les moyens partent. Tout le monde, mon père a été formé à la Sorbonne. C'est-à-dire, tous les Tunisiens, les nationalistes, même ceux qui étaient le plus anticolonialistes, vous récitez des vers de Vigny, de Victor Hugo, mon père récitait des vers latins, il adorait le latin, mon père. Alors, il passait son temps à nous faire des dictons en latin. Ça nous faisait rire, d'ailleurs. Et donc, et puis le français était notre langue à la maison, avec ma mère. Ma mère était institutrice. Ma mère m'a mis sur les bancs de l'école à l'âge de 4 ans. Ma mère a enseigné au grand, au lycée Sadiki, c'est-à-dire au collège bilingue franco-arabe, qui a formé tous les grands nationalistes tunisiens qui étaient tous devenus avocats, médecins, etc. Donc ma mère, elle m'a mis à 4 ans, il y a des photos, je suis avec tous ces garçons, il n'y avait que des garçons dans l'école. Ce n'était pas des classes de 20 comme maintenant, c'était des classes de 50, 60 ou plus même. Et donc j'ai appris à lire et à écrire. Après je suis allée au lycée, au grand lycée de jeunes filles, rue d'Angleterre. Et c'était tout à fait naturel hein, d'aller à l'école française. Il n'y avait pas d'antinomie entre le savoir, c'est-à-dire la culture française, et la culture nationale. Au contraire, la culture française était celle qui avait permis à Bourguiba, par son don, par son éloquence, par les articles, il écrivait un français merveilleux, mieux que n'importe quel journaliste aujourd'hui en France. Les articles de Bourguiba sont des chefs-d'œuvre littéraires en français. Et à l'oral comme à l'écrit. Et c'est comme ça qu'il a séduit Mendès France. Et c'est comme ça qu'il a eu l'indépendance, parce qu'il était cette espèce de fleuron de l'école française lui-même. Et j'ai même eu entre les mains ça, la copie de Sciences Po qu'il a eue. Il avait 16 sur 20. Et il devait avoir 20 ans. Quelqu'un m'a envoyé la copie. Et il y avait, dans cette copie, il y avait écrit excellent, etc. 16 sur 20. Et quand je l'ai lu, il y avait déjà l'homme d'État. C'était déjà l'homme d'État dans la copie. Je l'ai lu beaucoup plus tard. C'était, je crois, les finances et l'État, les finances publiques et l'État. Donc, tout le monde faisait ses études en France. Donc, tous les plus grands nationalistes patriotes aimaient la France. C'était la francophilie de Bourguiba. Il a même fait une émission avec Jacques Chancel, je crois, pour dire combien il aimait la France. Donc, cette force-là, c'est-à-dire l'ennemi est un ami. L'adversaire n'est pas un ennemi. L'adversaire est un ami. Voilà. Et ça, on a été élevé là-dedans.
Donc, vous êtes arrivée en 1970 ?
Non, avant. J'ai eu ma licence en 68. Donc, j'ai vécu 68, moi. J'ai vécu le mai 68.
Vous l'avez vécu comment, il est
dans la rue. Dans la rue. Avec tout le monde. On a vécu mai 68. Évidemment, dès qu'il y avait des gaz lacrymogènes, on se cachait dans les corps pochés. Moi, j'étais un peu peureuse. De ce point de vue-là, je n'étais pas téméraire. Je n'allais pas affronter les CRS.
C'était votre premier séjour à Paris ?
Non, c'était avant mon premier séjour. J'ai commencé une classe prépa. Puis, bon, je suis rentrée à ce moment-là. J'étais malheureuse parce que j'étais en pension. Pas à cause de la classe prépa. Je n'ai pas supporté la pension. Et je suis rentrée. J'ai fait ma classe prépa à Tunis. Et puis, je suis repartie. Voilà.
Et quand vous êtes arrivée pour préparer l'agrégation ? Vous aviez des amis,
mes parents avaient des amis. Oui. La France, je dis tout. Quand les gens me pensent, je dis mais non, mais je suis une occidentale, je suis une française. C'est-à-dire, je peux être avec des intellectuels tunisiens ou avec des intellectuels français. Je n'ai aucun problème d'adaptabilité. Je m'adapte immédiatement. Donc c'est mon univers en fait. Pourquoi ? Parce que c'est la littérature. Et grâce aux livres que j'ai lus très jeune, et grâce aux auteurs. Et grâce à mes maîtres, c'est mes professeurs qui m'ont donné le goût.
Quels étaient, ou quels sont peut-être encore, LBJ, les auteurs, donc vous étiez une brillante étudiante en lettres, que vous aimiez particulièrement ?
Alors, j'ai commencé en littérature. C'était les auteurs scolaires que j'aimais beaucoup, le Lagarde et Michard, je travaillais beaucoup. Je suis le format Lagarde et Bichard, moi. Bon. Je ne parle pas des auteurs classiques, parce que cela, c'était ce qu'on devait apprendre. Mais il y avait une auteure qui m'avait frappée, paradoxalement, c'était une femme, c'était Simone Weil, la philosophe. Et je me souviens, c'était en classe de seconde, notre professeur de français nous a parlé d'elle. Elle nous a expliqué la vie de Simone Weil, qui était agrégée de philosophie, et qui avait sacrifié sa vie pour la classe ouvrière. Et ça m'avait complètement traumatisée. Ça m'avait bouleversée, en fait. Et j'ai développé une admiration pour cet auteur dont j'ai acheté tous les livres, l'Enracinement, j'ai tout lu, Lettre à un religieux. Et c'est là que j'ai jamais coupé le lien avec l'importance du religieux grâce à Simone Veil, puisqu'elle était juive, mais qu'elle s'est convertie sans se convertir, sans jamais se faire baptiser, aller au christianisme. Et c'est devenu un auteur chrétien. Et il y avait chez elle une force de l'esprit, c'est-à-dire je me suis rendu compte combien l'esprit pouvait être à la fois anti-religieux et combien il pouvait être aussi religieux. Et donc j'ai toujours, comme mes parents, j'ai toujours été profondément anticléricale. On n'aime pas les faux dévots, on n'aime pas les Tartuffes. Tartuffe aussi, la pièce qui m'a beaucoup marquée, c'est aussi Tartuffe ou l'imposteur. Et donc on se moquait toujours à la maison des faux dévots, des puritains, des gens qui faisaient une surenchère de l'hypocrisie. Voilà. Et donc je suis entrée en fait dans la pensée moderne à travers Simone Veil, qui, comme on le sait, a dépassé, est allée beaucoup plus loin que la lutte des classes, parce qu'on était tous un peu marxistes quand on était jeunes.
Mais vous alliez dans des
non, pas beaucoup. Non,
cercle de réflexion, vous participiez.
Il y en avait pas. À l'époque, à Paris ou à Tunis, vous me dites.
À Paris.
Non. Juste en mai 68, j'ai été embarquée par le Parti communiste.
Ah, vous avez adhéré ?
Non, j'ai pas adhéré justement, mais par des petits étudiants communistes qui me faisaient comme ça, qui me faisaient de la propagande et tout, et qui me disaient, alors j'ai dit non, mais explique-moi ça. Alors je leur posais beaucoup de questions, et il y en a un qui m'a dit, écoute, adhère au parti et je t'expliquerai. J'ai dit, ah non, tu m'expliques, j'adhère pas au parti. Oui. Ça, je me rappelle ça.
Et avec l'omniprésence de la politique chez vous, dans votre maison, et les BG, vous avez été tentée de faire de la politique ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est un mystère, effectivement. Pourquoi j'ai pas fait de politique ? C'est ça, c'est pas pourquoi j'ai fait de la littérature. Pourquoi j'ai pas fait de politique ? Parce que ma généalogie, elle est politique, en fait. C'est-à-dire, mes parents avaient des lettres. Mon père était abonné à la revue Esprit. Et il était abonné au journal Le Monde. Donc ouais, il était plutôt de gauche, mon père. Quand il a été ministre, il a fait des grandes réformes d'ailleurs de la santé socialiste, par exemple la vaccination pour tous les enfants, la poliomyélite, c'était des grandes mesures sociales. Le contrôle des naissances, c'est mon père qui l'avortement, l'autorisation de l'avortement bien avant la France, le contrôle des naissances bien avant, toutes ce qu'on appelle le planning familial, le fait que les femmes doivent avoir moins d'enfants pour avoir une vie heureuse, pour ne pas être esclaves et serfs toute leur vie. Donc tout ça, c'était des lois révolutionnaires à l'époque. Donc j'ai été élevée dans cet esprit-là. Et pourquoi j'ai pas fait de politique ? Parce que finalement, la politique m'était servie sur un plateau d'argent. En fait, c'était très facile. Peut-être trop. C'est-à-dire que j'étais sur la trajectoire d'une grande carrière politique facile. Très jeune diplômée, bon, je pouvais aller très loin en politique. J'ai choisi exactement le contraire. C'est-à-dire, non pas la vie publique, mais la vie contemplative, la vie réflexive, la vie philosophique, la poésie. J'ai choisi exactement l'opposé du monde politique.
Bon. Et enseigner.
Je sais pas, oui.
Ça vous plaisait ?
Bien sûr, beaucoup. Parce qu'à cause de mes maîtres. C'était des modèles, donc je voulais être un modèle. Donc le fait d'avoir des maîtres modèles voulait que je devienne un prof modèle. Et j'adorais, jusqu'à présent, j'aime. Jusqu'à présent, quand je fais les devoirs de ma petite fille, je vois combien j'aime la pédagogie, j'aime transmettre ce que je sais. Et alors, moi, je me suis toujours interrogée pourquoi je n'ai pas fait de politique. Comme tout chez nous est inconscient et qu'on ne se connaît pas soi-même et que c'est de la blague, le mythe de la transparence, hein, vous savez que c'est un mythe totalement totalitaire qui n'est... Depuis qu'on a lu Freud...
C'est plus tellement... En fait, on le sait maintenant.
On le sait, mais on continue
même pas
à dire...
à nous-mêmes.
Oui, mais on continue à dire, l'Europe continue à dire qu'il faut des trucs transparents, que tout doit être transparent, c'est un mensonge. Là, c'est la nouvelle tartufferie, hein, c'est la nouvelle religion. Hein. Donc, je savais que... Et puis après, j'avais lu Freud, j'avais compris. Peut-être, parce qu'on veut toujours se distinguer de ses parents, quelle que soit l'affection qu'on leur porte. Deux, peut-être à cause du pouvoir. J'avais côtoyé de trop près le pouvoir et j'avais vu que c'était devenu un monde clos, même si mes parents étaient des gens qui n'aimaient pas le pouvoir. Mon père n'aimait pas, d'ailleurs il l'a quitté à l'âge de 50 ans, hein, il a démissionné.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il est redevenu avocat. Donc, il y avait chez nous, à la fois, on participe à une grande œuvre, mais le pouvoir, c'est pas notre truc. Et donc, moi, j'ai pas aimé beaucoup les gens de pouvoir. Je n'ai pas eu de lien.
Pas de fascination.
Non, même plus que, même beaucoup moins que la fascination, même de la, même, comment on a, près de la répulsion, pas vraiment, mais de la méfiance. Et jusqu'à présent, ça m'est resté. Jusqu'à présent, j'ai toujours gardé une certaine méfiance vis-à-vis des gens du pouvoir.
Mais un intérêt pour la politique ?
Mais un très grand intérêt pour la chose publique, parce que je sais que c'est là que se joue notre destin. Et que Rousseau disait déjà, quand on a un bon gouvernement, la société, les gens sont bons. La société est bonne. Quand on a un mauvais gouvernement, la société est mauvaise.
Parce que vous êtes une intellectuelle, vous n'écrivez pas sur la littérature, enfin, vous écrivez vraiment sur la chose publique.
Exactement, voilà, j'ai pas... Alors là aussi, c'est bien ce que vous me demandez, parce que là aussi j'ai bifurqué par rapport à l'université. Puisque vous me demandez ce que j'ai aimé comme auteur, bon, Simone Veil et puis tous les auteurs que... Alors la philosophie. J'aurais pu faire une carrière de philosophe. Bon, les circonstances ont fait que je sais. Mais vous voyez, je vais toujours vers les idées. Je me souviens que j'étais très jeune, j'avais 16 ans ou 17 ans, je lisais Phénoménologie de la vie de l'esprit, de Kojève sur Hegel. C'est un gros livre comme ça. Et je m'imposais tous les jours, je me rappelle, les gosses venaient jouer, mes copains, les adolescents venaient se baigner, c'était l'été, ils venaient se baigner chez moi et tout. Je m'enfermais dans ma chambre pour ne pas qu'ils m'embêtent. Et je lisais, après j'allais jouer avec eux, mais je voulais lire tous les jours, je faisais tous les jours 10 pages de la phénoménologie de l'esprit. Je m'imposais cette discipline. Voilà. C'est ça que je retiens de mon adolescence. Et ensuite, je suis tombée dans tous les auteurs. Je lis tout.
Eh bien, nous en parlerons demain soir, et les BJ particulièrement, puisque demain soir, nous parlerons du Collège international de Tunis et donc de la vie des idées que vous avez animée à travers ce collège.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Élé Béji. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Quérou, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.